This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici on t'aime.
I take pride in the words Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense everywhere en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jason l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Alors, tout au long de cette semaine, nous avons évoqué les événements marquants de cette année-là, 1989, en Europe de l'Est, en URSS ou en Chine. Il ne faudrait pas passer sous silence ce qui se passe au même moment en Amérique latine, où les dictatures soutenues par les États-Unis fleurissent avec leur lot de corruption, de trafic, de disparition, d'assassinat. Durant les années 60, 70 et 80, les États-Unis, par CIA interposée, interviendront pour faire et défaire les gouvernements d'Amérique latine. Cette année-là, deux cas illustrent particulièrement bien cette ingérence constante. Alors c'est au Chili d'abord, puis au Panama, que l'histoire révèle les conséquences de la réelle politique dont le théoricien Henry Kissinger, qui sera secrétaire d'État dans les gouvernements Nixon, puis Ford. Il est favorable à la détente avec l'URSS, au rapprochement avec la Chine. Il sera l'un des artisans de la paix au Vietnam, mais il soutient de manière indéfectible les dictatures d'Amérique latine. Il n'accepte pas d'imaginer voir naître des régimes pro-communistes ou crypto-communistes dans le continent sud-américain. Alors cette année-là, eh bien, l'un des dictateurs qui a été soutenu en son temps par Henry Kissinger, c'est le général Pinochet. Il dirige encore le Chili depuis le coup d'État de 1973 contre le président élu Salvador Allende. Coup d'État favorisé par les services secrets américains de ce distingué personnage qui était Henry Kissinger, qui par ailleurs aura le prix Nobel de la paix, ce qui quand même est assez étonnant. Le journaliste Bernard Benyamin d'Antenne 2 a pu rencontrer en 1989 le général Pinochet et il a diffusé un portrait du dictateur.
Le général est un sportif et s'est enlève tôt. Chaque matin à 6h30, il est déjà dans sa salle de gymnastique au sous-sol de la très belle maison que l'armée chilienne a mis à sa disposition. Mais ce qui surprend le plus, ce n'est pas tant de le voir en plein exercice, encore qu'à 73 ans, le général démontre une belle vigueur. Non, ce qui surprend le plus, lorsqu'on le verra quelques minutes plus tard avec sa fille prendre son premier café de la journée, c'est la voix. C'est qu'elle cadre mal avec ce que l'on sait de lui, de ce qu'il a fait et de ce qu'il représente. Pour l'heure, il n'est qu'un homme 17 fois grand-père, attentif aux propos de sa fille Lucia, mais avec une pointe d'amertume lorsqu'il évoque son échec au référendum d'octobre dernier. Il est 7h30 du matin lorsque le cortège présidentiel pénètre dans les sous-sols du palais de la Moneda où la garde présente les honneurs militaires au général Pinochet. Nous sommes dans l'aile gauche du palais de la Moneda, celle qui abrite les bureaux présidentiels, celle qui renferme la galerie des portraits de tous les présidents qui se sont succédés à la tête du Chili depuis l'indépendance. Ce n'est pas une surprise, il manque sur ce mur blanc le portrait d'un seul président, Salvador Allende. Il était président de la République du Chili de novembre 1970 jusqu'à ce fameux jour du 11 septembre 1973. Quinze deux ans ont passé et la Moneda a été reconstruite. Mais pour la première fois, le général Pinochet accepte de nous faire visiter l'endroit où est mort Salvador Allende.
Esto fue bombardeado, fue totalmente destruido. Ahora ha cambiado la presentación gracias a la nueva reconstrucción que se hizo.
¿No piensa que durante ese periodo del 11 de septiembre de 73 hubo excesos en la represión, por ejemplo?
Efectivamente, como la gente de la oposición tenía armas y luchaba duramente, eso era como consecuencia de reacciones también violentas. Por eso yo digo, hubo exceso por un lado y exceso por otro.
Pero, perdón, si debía que hacerlo de nuevo, ¿lo haría?
Bastante difícil la pregunta. No tiene respuesta.
Bueno, si quiere vamos a hacer un pequeño juego de contestas y preguntas y contestas.
Muy bien.
Si le digo, por ejemplo, patria.
Libre.
Fuerzas Armadas.
Protección a la democracia.
Comunismo.
Destrucción de la patria.
Derechos humanos.
Concepto muy honesto, mal aprovechado por los comunistas.
Dictadura.
No me gusta la palabra.
Tortura.
Medios coercitivos que buscan extraer de la persona humana mentiras o verdades a costa de sangre y dolor.
Golpe del 11 de septiembre de 73.
Libertad de la patria.
Y en fin, el general Pinochet.
Un hombre con vicios, virtudes, al servicio de su patria.
Et il faut bien le reconnaître, 15 ans après le coup d'État, le général Pinochet a réussi à se constituer une véritable base populaire, des millions de Chiliens qui lui sont reconnaissants des progrès accomplis, surtout dans le domaine économique. C'était particulièrement frappant l'autre jour à Puerto Montt, dans le sud du pays. Un accueil très chaleureux qui pourrait bien décider le général à se présenter aux élections présidentielles, même si pour le moment, il n'en est pas question.
La gente es muy cariñosa. Este es el 43% que me apoya.
¿Y tiene la impresión que puede cambiar esa cifra?
Puede cambiar. Tengo la impresión que puede cambiar. Pero yo no. Bueno.
Ya no para usted.
¿Ah?
Ya no para usted.
Para otro.
Personnage plus complexe qu'on le supposait, certes. C'était sans compter une certaine Lily Marlène, qui dans un raccourci saisissant du temps, allait nous renvoyer à d'autres régimes, à un autre général que lui-même veut faire oublier, celui de 1973.
Voilà, c'est sur cette belle chanson Lily Marlène qui rappelle le Troisième Reich. Que se clôt cette interview, alors pour ceux qui ne comprendraient pas les délices de la langue de Cervantes, eh bien, je vous dirais que à la question si c'était à refaire, eh bien, le général Pinochet déclare que c'est une question très difficile et donc il n'y répond pas. Qu'à la question force armée, il répond par protection de la patrie. Que le mot dictature est un mot qui ne lui plaît pas et que le coup d'État, eh bien, c'est synonyme de liberté. Voilà, en gros, ce que le général Pinochet exprime après 15 ans de pouvoir. Alors, il ne va pas se présenter, bien sûr, aux élections, malgré l'envie probablement qu'il devait en avoir. Mais l'âge le rattrape un petit peu. Donc, il va renoncer après ce référendum de 88 où le peuple chilien répondra non. Un nouveau référendum aura lieu le 30 juillet 89, et là, des réformes démocratiques vont être assurées et il devra céder la place à un gouvernement à peu près normalement élu. Alors vis-à-vis de cette réelle politique et de cette latitude des États-Unis en Amérique latine, eh bien, un cinéaste français d'origine grecque, Costa Gavras, qui avait connu le régime des colonels, a réalisé en 82 un film sur les agissements précisément des États-Unis en Amérique latine. Je vous propose une interview qu'il a donnée à ce moment-là à Antenne 2.
Costa Gavras, qui sort en ce moment aux États-Unis. Le film s'appelle Missing, la traduction française, Costa Gavras.
Disparu ou présumé disparu.
Ou porté disparu.
Porté disparu.
En tout cas, on dit que le président Reagan a fait subtiliser une copie de votre film pour le voir le week-end dernier. Le film met directement en cause, semble-t-il, les agissements du gouvernement américain et de la CIA dans un pays qui ressemble fort au Chili. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Reagan s'agite tellement.
Oui, en fait, il faut dire d'abord que c'est une production américaine, avec des gros capitaux américains et des grosses vedettes américaines. Ce qui fait que le film, d'après les premières réactions, risque d'être très populaire. En plus, il tombe à un moment où la politique et les rapports intérieurs et avec l'étranger sont très difficiles pour l'administration. Naturellement, ça n'a pas été programmé du tout, ni par moi, ni par la société américaine.
Et l'histoire est donc celle d'un jeune Américain
qui a disparu dans un pays latino-américain pendant un putsch. Son père va le chercher et il demande l'aide de l'ambassade américaine, des officiels américains, et finalement lui ment pendant très longtemps, et afin il réussit à trouver son fils mort, exécuté. Voilà, grosso modo, l'histoire. Ce qui, à mon avis, touche beaucoup l'administration, c'est le parallèle avec le Salvador aujourd'hui, et peut-être le parallèle, parce qu'il s'agit d'un coup militaire, avec la Pologne. Parce que d'un côté, l'administration fait des espèces de manifestations contre la Pologne, et de l'autre côté, il y a l'intervention au Salvador. Et le public américain, qui a à la télévision, aux journaux, aux radios, tous les jours des informations des deux côtés.
Oui, ce qui est quand même la différence, évidemment, entre la Pologne et le Salvador.
Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent plus, c'est-à-dire comment peut-on, d'un côté, condamner une intervention militaire et en faire une autre de l'autre côté. Voilà, je crois, où se situe toute la controverse.
Mais vous ne vous êtes jamais caché de faire des films engagés. Alors, dans ce film-ci, est-ce que vous avez pris un parti ?
Engagé, oui, c'est tellement compliqué à aborder. Si le film, c'est une histoire personnelle. Ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a aucune tentative, ni aucune explication politique, ni aucune, position partisane. C'est l'histoire d'un homme et de la femme de son fils qui cherche leur fils dans une sorte d'enfer. Le sénateur Charles qui a vu le film, j'ai dîné après avec lui, il m'a dit c'est un cauchemar révisité. Donc il y a beaucoup de sénateurs qui ont vu le film. Donc ils ont réagi très positivement au film. Il y a même des sénateurs républicains qui ont vu le film. Et je sais qu'il y en a un ou deux qui ont réagi officiellement et très positivement. Alors tout ça nourrit beaucoup la controverse. Nourrit beaucoup les gens qui sont opposés à l'intervention au Salvador.
Voilà, vous aurez reconnu Christine O'Krent, donc en 82, interviewant Costa Gavras. Alors, concernant le général Pinochet, eh bien, sachez que sa présence au pouvoir se traduira au total, grosso modo, parce que là évidemment, les statistiques ne sont pas toujours très, très fiables, mais à 3200 morts, 38 000 torturés, des dizaines de milliers d'arrestations et de disparitions. Certaines familles n'ont jamais retrouvé les personnes qui avaient disparu. Alors, il va mourir sénateur à vie. C'est la concession que fait le nouveau régime démocratique pour éviter, pour calmer, on va dire, les généraux de l'armée chilienne. Sénateur à vie, il mourra dans son lit en 2006, tout simplement, en bon dictateur qu'il est. Bien qu'il ait été inquiété par un juge espagnol, le juge Garçon, qui avait intenté contre lui une mise en cause internationale. Mais alors, il réussira à l'inculper au moment où il est en Angleterre, mais le gouvernement britannique le laissera repartir au Chili, et donc les choses en resteront là. Voilà comment la plupart, enfin, pas tous, mais un certain nombre de dictateurs n'ont disparu que très tranquillement dans leur sommeil. I Love You, Porgy, une composition de George Gershwin, revisitée, revue et corrigée presque, on pourrait dire, par un nouveau groupe qui apparaît en 1989, c'est le groupe Quest. C'est un de leurs premiers enregistrements. Ce sont quatre solistes d'exception qui se sont réunis. Il s'agit de Dave Liebman au saxophone soprano, Richie Berard au piano, Ron McClure à la basse qu'on entendait ici au glissando, et Billy Hart à la batterie. C'est un album donc intitulé Standard. Alors cette année-là, en Amérique latine, il y a un autre dictateur qui va prendre le pouvoir, enfin qui va achever son ascension vers le pouvoir. Nous sommes le 7 mai et des élections ont lieu au Panama. La victoire apparaît probable pour le candidat de l'Alliance démocratique d'opposition. C'est alors que le général Noriega refuse carrément de reconnaître la défaite de son candidat, car il manipule les élections depuis quelques années. Le tribunal suprême des élections annule donc le scrutin pour éviter une guerre civile. Une période de troubles s'ensuit, quelques mois, et le 15 décembre, l'Assemblée nationale de Panama nomme le général Noriega chef de l'État, doté de pouvoirs spéciaux. En réalité, c'est une marionnette de la CIA qui a fini par prendre son autonomie. Aussi, le 20 décembre, donc très peu de temps après, l'opération Just Cause est lancée. Les États-Unis interviennent directement au Panama pour renverser Noriega. Le gouvernement américain ne peut laisser le canal de Panama aux mains d'un dictateur qu'il ne maîtrise pas. L'opération Just Cause, dont la tradition est une cause juste, a pour but, je cite, de rétablir la démocratie, protéger surtout les ressortissants américains et défendre les traités concernant la circulation dans le canal de Panama. Fin de citation. Le nouveau chef de l'État, Guillermo Andara, d'ailleurs, prêtera serment sur une base militaire américaine. C'est un symbole que l'on ne peut laisser passer. Le 25 décembre, le général Noriega donc va s'enfuir et se réfugier à l'ambassade du Vatican, laquelle ambassade va être encerclée par les forces américaines et le général en question se rendra à la justice le 3 janvier 1990, accusé de trafic de stupéfiants. Alors, qui était le général Noriega? Recruté par la CIA en 1968, il participe au coup d'État qui renverse le président Arias, qui avait été normalement élu, et devient le bras droit du dictateur Torrijos. Après la mort accidentelle de celui-ci, il prend la tête de l'armée et va faire, défaire les différents gouvernements, les différents présidents jusqu'en 1989. À partir de 1987, il augmente la difficulté, il devient un agent double. Il sert à la fois la CIA et les services secrets cubains. Il est également, accessoirement, à la tête d'un énorme trafic de drogue. Devenu incontrôlable, les États-Unis, évidemment, vont le lâcher. D'ailleurs, le comité du Sénat américain sur le terrorisme, les stupéfiants et les affaires internationales conclut alors, je cite, « La saga au Panama du général Noriega représente l'un des échecs les plus graves de la politique étrangère des États-Unis ». Noriega a en outre participé au fameux cartel de Medellín dirigé par le narcotrafiquant Pablo Escobar. À noter qu'en 1987, Noriega a été fait commandeur de la Légion d'honneur en France. Alors, pays qui ensuite a poursuivi pour avoir blanchi de l'argent, parce qu'il avait une situation assez étrange. Mais vous me direz, le Ceaușescu, le dictateur roumain, ne l'avait-il pas été lui aussi pour service rendu d'échanges diplomatiques en son temps? Thank you. Passarim, une composition d'Antonio Carlos Jobim, jouée par le trio de Eliane Elias, une chanteuse qui apparaît en 89, c'est un de ses enregistrements qui lui font une certaine notoriété, en compagnie d'Eddie Gomez à la contrebasse et Jack DeJohnette à la batterie. Alors, c'est une pianiste et chanteuse brésilienne née en 1960. Elle débute à 17 ans et se fait connaître en 83 lors d'un enregistrement avec Steps Ahead, le groupe de Mike Manieri et Michael Brecker. Elle enregistre ses premiers albums sous son nom comme pianiste et le morceau qu'on entendait a été enregistré en décembre 89. Et c'était donc une sorte d'hommage à l'un de ses maîtres à chanter ou à jouer, puisqu'elle chantait également, mais pas dans cet album. On va terminer l'émission avec juste une allusion à Frank Sinatra, dont en 89, c'était la dernière tournée. Et dans un concert qu'il a donné à Los Angeles, il y avait invité Sammy Davis Jr. et Liza Minnelli.
Sounds like the blues to me.
Sometimes you're happy and sometimes you're sad. But the world goes round. And sometimes you lose every nickel you've had. But the world goes round. Sometimes your dreams get busted in pieces, but that doesn't matter at all. Take it from me, there's still gonna be a summer, a winter, a spring. Sometimes a friend starts treating you bad, but the world goes round. And sometimes your heart breaks with a deafening sound. Somebody loses and somebody wins. And one day it's kicks, then it's kicks in the shins.
There's a boat that's leaving soon for New York. Stop that! Come with me. That's where we belong.
Déchirant de devoir reprendre la parole sur Sammy Davis Jr., mais c'est ainsi, le temps nous est compté. On se retrouve pour un nouveau Jazzzone, mais ce sera une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words, ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense à Ewer en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.